Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napřík...
Uvažajme i gosti.
Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
Des bruits de bottes soviétiques en Afghanistan.
France Inter Actualité. 26 décembre 1979.
Des touristes étrangers ont vu plusieurs douzaines d'avions cargo transportant des blindés et des troupes d'élite se poser sur l'aéroport de Kaboul. Les soldats russes ne cherchaient même pas à se cacher. Visiblement, Moscou veut mettre toutes ses forces au service du gouvernement afghan, un gouvernement rouge, pro-soviétique, menacé par des soulèvements religieux. Les événements de Kaboul inquiètent sérieusement Washington. À plusieurs reprises, les Américains ont fait savoir aux Russes qu'ils ne pourraient pas rester indifférents devant une satellisation progressive de l'Afghanistan.
C'est comme ça que l'entrée des Soviétiques en Afghanistan est interprétée en Occident. Hein.
Alexandre Riosbord.
Aux États-Unis comme en Europe, et d'abord aux États-Unis, comme une invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, alors que les Soviétiques pourraient à bon droit dire qu'ils ont été invités à intervenir par le gouvernement de Kaboul pour venir renforcer une situation difficile pour le gouvernement de Babrak Karmal. Mais en Occident, on perçoit ça comme une invasion, hein, comme l'entrée de 75 000 hommes avec chars, avec véhicules blindés. Enfin, c'est une armée d'invasion qui intervient dans un contexte troublé qui fait que effectivement on va s'inquiéter en Occident de cette invasion. Peut-être il faut commencer par dire que cette guerre en Afghanistan, c'est d'abord une affaire interne afghane, hein, qui résulte de la situation en Afghanistan dans les années 70, à l'issue des années 1970. En 1973, en Afghanistan, le roi est renversé, hein, qui régnait depuis les années 1930. Il est renversé par son beau-frère, qui s'appelle Mohamed Daoud, qui est un ancien premier ministre et qui se présente comme le modernisateur de l'Afghanistan et qui veut effectivement moderniser le pays, à la fois moderniser l'économie afghane et puis moderniser la société afghane, qui s'inspire un peu du modèle soviétique, hein, puisqu'il va y avoir nationalisation de l'économie, mais qui est une politique prudente sur le plan international dans le contexte de guerre froide. Par contre, son programme de modernisation, lui, va susciter beaucoup de résistance au sein de la société afghane. Dans deux groupes politiques, un au sein des militants communistes, dans les villes principalement. Le parti communiste existe en Afghanistan sous la forme de deux factions qui ne s'entendent pas très bien. Une faction radicale qui sont les Khalks, qui est un communisme qui s'appuie sur les zones plutôt rurales, qui voudra des réformes assez dures. Et puis une autre tendance plus modérée, pour la raison qu'elle est celle des étudiants des universités dans les années 70, qui s'appelle les Parchams, qui sont menés donc par Babrak Karmal, qui est le chef de l'État au moment de l'invasion soviétique en 1979. Babrak Karmal, qui est le préféré des soviétiques, cette faction Parcham, parce qu'elle est plus modérée, elle a les faveurs de l'Union soviétique, parce que les soviétiques veulent que, dans les années 70, le parti communiste local entretienne des bonnes relations avec Daoud. Daoud, ça va, à Moscou, dans cette situation-là. L'autre faction politique qui réagit mal au programme de modernisation de Daoud, c'est les islamistes, qui existent depuis les années 50, mais qui vont se structurer à partir du coup d'État de 73 en Afghanistan. Des islamistes qui ont à la fois des soutiens en Afghanistan, mais qui ont aussi des soutiens dans l'État voisin du Pakistan. Le gouvernement d'Ali Bhutto, bien qu'étant laïque, va apporter son soutien aux islamistes dès le milieu des années 70, soutien assez discret, qui va se renforcer à partir de 77, à partir du coup d'État du général Zia, pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire il s'agit de contrer le nationalisme afghan de l'autre côté de la frontière, pour des raisons aussi liées aux liens ethniques et tribaux transfrontaliers. Donc on soutient ces islamistes comme des proxys en quelque sorte dans le dos stratégique du Pakistan, qui lui se préoccupe toujours de sa frontière occidentale avec l'Inde évidemment. Donc on a ces deux groupes, les communistes et les islamistes, qui s'affrontent à Daoud de manière de plus en plus nette. C'est les communistes qui vont passer à l'action en 1978 avec un coup d'État contre Daoud. Ils vont prendre le pouvoir. C'est la faction la plus radicale, les Khalks, qui ont mené ce coup d'État. Et les deux leaders Khalks qui vont prendre le pouvoir, hein, Nur Mohamed Taraki et Hafizullah Amin, qui vont tous les deux partager le pouvoir. Taraki étant le chef d'État et Amin sont un de ses principaux ministres. Donc ils vont prendre le pouvoir. Dans un premier temps, ils s'entendent avec la faction modérée des Parchams. Et puis, à l'été 1978, trois mois après le coup d'État, ils vont opérer une purge et se débarrasser de la faction modérée Parchams. Et donc les Khalks assoient leur pouvoir à Kaboul, mais ne parviennent pas, dans la suite de l'année 1978, à imposer l'ordre, Face à des oppositions locales, notamment menées par les islamistes radicalisés, avec le soutien du Pakistan, qui monte en puissance en quelque sorte. Donc le 27 décembre, 15 jours après l'autorisation de Brejnev, les unités spéciales du KGB sont débarquées sur l'aéroport de Kaboul, vont prendre de force, après une résistance importante, le palais présidentiel à Kaboul. L'interprétation immédiate à l'Ouest, c'est que c'est un geste extrêmement agressif de l'Union soviétique, d'autant plus inquiétant du point de vue américain que la situation est instable du point de vue américain dans cette zone. La réaction officielle, la réaction ouverte américaine est très dure. Hein. Cette fois-ci, ça va devenir une opération clandestine qui vise à renforcer les moyens militaires de la résistance pour les maintenir en action contre l'invasion soviétique. C'est la première phase de l'opération clandestine, sous Carter, donc, de 79-80. L'idée, c'est qu'il faut maintenir en vie ces Moudjahidines, et pour ce faire, on va collaborer avec les Pakistanais pour donner du matériel militaire aux Moudjahidines. Tout ça par l'intermédiaire des services de renseignement pakistanais, qui dès cette période vont donc jouer un rôle clé, vont se trouver dans une situation pivot, c'est-à-dire de recevoir l'aide américaine, de servir d'intermédiaire pour cette guerre clandestine que les Américains veulent mener contre les Soviétiques, mais d'intermédiaires qui ont donc en fait le contrôle sur les factions qui en Afghanistan recevront ou ne recevront pas l'aide américaine et bientôt l'aide des pays alliés des États-Unis. Dans un premier temps, il s'agit donc de maintenir en vie ces mouvements de résistance, et puis avec l'arrivée du gouvernement Reagan, on va passer à une autre phase de l'opération clandestine qui va graduellement monter en puissance. En fait, l'histoire de l'opération clandestine en Afghanistan, c'est l'histoire d'une montée en puissance, d'une opération paramilitaire couverte en 79-80 à une guerre couverte ou une guerre clandestine qui n'est plus vraiment clandestine au milieu des années 1980, avec une montée en puissance permanente et des moyens mis en place et de l'objectif qui doit être atteint. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que la guerre devient pour les Soviétiques un gouffre. Au plus fort en 1986 de l'implication et de la CIA et des Soviétiques, il y a 100 000 soldats soviétiques parmi les meilleures troupes soviétiques sur place. On mène une guerre qui ne marche pas, hein, on n'arrive pas à contrôler la frontière. Et donc, en 1986, Gorbatchev, installé au pouvoir, décide qu'il faut, dans un parallèle qui n'est pas sans faire sourire les Américains, afghaniser la guerre afghane, comme on avait vietnamisé la guerre du Vietnam. Il faut afghaniser la guerre afghane, comprendre, il faut transférer la guerre aux Afghans et se retirer, évidemment, sous deux ans, dit Gorbatchev, parce que les Moudjahidines sont trop efficaces. Hein. Les Soviétiques accélèrent le retrait, et en février 1989, ils se retirent de l'Afghanistan. Le bilan pour l'Union soviétique est de 8000 morts, 17000 blessés. C'est une catastrophe et politique, et diplomatique, et économique pour l'Union soviétique, évidemment, cette guerre en Afghanistan.